C'est ce qui fait le charme de ce personnage extraordinaire. Il part avec une poignée de volontaires, dans la tradition des expéditions révolutionnaires, qui s'inspiraient d'ailleurs de Mazzini, toute cette mystique de la révolution. On pensait qu'avec une poignée d'individus, on pourrait soulever l'ensemble d'un pays. Et jusqu'en 1860, toutes ces opérations avaient échoué lamentablement. Et lui reproduit le même schéma. Un millier d'individus, essentiellement d'origine citadine et bourgeoise quand même, mais avec des objectifs différents, des considérations politiques aussi différentes. Et par une écoute du sort extraordinaire, il débarque à Marsala et il conquiert ce royaume, un royaume entier de 10 à 11 millions d'âmes en l'espace de quelques semaines. Puis ensuite, il se dirige vers Messine et là, il remonte jusqu'à Naples où il entre triomphalement et il a conquis ainsi ce qu'on appelle le royaume des deux Siciles, c'est-à-dire tout le midi de l'Italie, tout ce qui est au sud de Rome finalement, comprenant la Sicile et le Mezzogiorno.
C'est là que commence l'unité italienne.
Il se retrouve à la tête d'un royaume entier et il a le geste extraordinaire pour l'époque de remettre au roi d'Italie, Victor Emmanuel II, cette partie sud de la péninsule italienne qui permettait d'unifier l'Italie des Alpes à la Sicile sans rien exiger en retour. Et c'est cet acte totalement désintéressé et généreux qui fait entrer Garibaldi dans le panthéon des héros. Il est glorifié en Italie, il est glorifié en France, je pense au discours de Victor Hugo, George Sand. Donc vraiment l'expédition des Mille et ce geste de donner sans rien exiger en retour constitue le socle de la construction du mythe garibaldien par excellence.
Comment expliquer ce geste désintéressé ?
À mon sens, c'est lié au caractère du personnage qui est Garibaldi. C'est un homme qui s'est engagé par idéalisme. Il fait partie de cette génération, toute cette génération romantique, qui considérait que l'idée prime l'action également, mais sans forcément obtenir des compensations financières ou autres. C'est un homme qui a vécu dans la misère.
Vous venez de publier un livre sur Garibaldi et l'idée européenne, l'identité européenne aujourd'hui. Alors quel lien peut-on faire 200 ans après la naissance de Garibaldi ?
Le projet du livre, c'était une sorte d'essai. Je me suis demandé si cette Europe qui a privilégié le marché au détriment de l'homme depuis le traité de Rome, c'est-à-dire depuis 1957, ne manque pas d'âme. Comme disait Jacques Delors, il manque à l'Europe un supplément d'âme. Or, mettre en exergue des figures historiques qui couvrent l'ensemble de l'Europe, sur le plan politique, sur le plan culturel, pourrait donner à l'Europe cette identité culturelle. Et donc, s'aperçoit que c'est un personnage qui est héros. Un héros du Risorgimento en Italie, il est présenté comme le père de l'unification italienne, aux côtés de Victor Emmanuel II et Cavour. C'est un héros de la République française, il est venu se battre quand même en 1870-1871 au secours de la République française face aux Prussiens et aux alliés, à leurs alliés allemands. C'est un héros dans les Balkans, c'est un héros en Hongrie, c'est un héros en Pologne. Le nom de Garibaldi dans les rues de Varsovie en 1863, lorsque les Polonais se révoltent, est assimilé à un acte d'indépendance et de liberté face à la Russie, car la Russie occupe la Pologne depuis 1815. Non, c'est une figure qui, par ses actes et par sa pensée, a une dimension fondamentalement européenne.